Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Il est 8h33. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour.
Vous êtes le président de Système U. Vous êtes d'ailleurs vous-même à la tête de votre propre magasin, un Hyper U en Alsace. Et on va essayer de comprendre avec vous comment il se fabrique le prix et pour comprendre quand même à quel moment il y a un truc qui déraille. On a le président de la République hier qui a encore dit qu'ils allaient faire en sorte, lui et Bercy, que vous, les distributeurs, les industriels se remettent à la table des négociations pour permettre que les prix baissent. On va voir s'il en a vraiment les moyens. Pour comprendre justement quels sont ces moyens de contrainte, je voudrais savoir où ça se passe. Quand on dit la table des négociations, d'abord physiquement c'est où ? Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est à l'étranger ? Est-ce que c'est la même table pour Coca, Mars ou pour Cochonou ? C'est-à-dire pour des marques étrangères et pour des marques françaises, ça marche comment ?
Ça marche dans nos bureaux, à notre siège par exemple de Système U à Rungis, pas loin d'Orly. On se rencontre, nos équipes d'acheteurs.
Ça c'est une centrale d'achat.
C'est nos centrales d'achat, voilà notre siège. Et en face, les industriels, le directeur commercial de l'industriel, sont responsables de compte Système U par exemple. Et là, il y a une discussion. La difficulté du moment, elle est où ? C'est que la loi française aujourd'hui prévoit que ces discussions aient lieu entre le 1er décembre et le 28 février et que les prix négociés pendant cette période s'appliquent toute l'année sans plus de modifications parce qu'on est engagé, parce qu'on a signé pour toute l'année.
Donc coup de bol, si pendant cette période-là les prix étaient bas, il le reste toute l'année. Si les prix étaient hauts, il le reste aussi toute l'année. C'est ça que vous nous dites.
Exactement. Et ce système, et c'est ce que je dis depuis un certain temps, n'est plus adapté à une période où il y a des mouvements de matières premières à la hausse ou à la baisse, puisqu'on est enfermé dans l'année, et c'est pour ça qu'il faut réouvrir les négociations.
Sur le principe, elles sont officiellement réouvertes. C'est-à-dire la loi ne vous interdit plus, puisque le gouvernement et Emmanuel Macron eux-mêmes le disent, il faut revenir à la table. Je repose ma question tout de même. Vous dites Rungis. À Rungis, j'imagine que celui que vous avez de l'autre côté de la table, exactement comme vous et moi ce matin, ce sont principalement les producteurs de fruits et légumes. Coca, par exemple, quand vous négociez l'achat de votre énorme stock de Coca pour les Super U de France, ça ne se passe pas autour d'une table à Rungis, si ? Coca vient à Rungis ?
Mais Coca,
c'est-à-dire le représentant de Coca vient à Rungis ?
Coca vient aussi à Rungis, bien sûr. Toutes les entreprises, c'est pas seulement les fruits et légumes. Ce sont des centaines d'entreprises qui viennent nous voir pendant ces trois mois. Pour les plus grandes multinationales, les Coca, les Procter et autres, il peut y avoir des regroupements d'achats même au niveau européen. C'est aussi le cas.
Centrales d'achat, par exemple Coca. Non, mais prenons l'exemple de Coca. Moi, je voudrais savoir comment ça marche, en fait. Je voudrais comprendre parce que j'ai l'impression que tout ça est très théorique. Je vous reçois, vous. Je reçois Michel-Édouard Leclerc. Je reçois Bruno Le Maire. Tout le monde me dit qu'il faut revenir à la table des négociations. Mais encore une fois, je veux qu'on se projette. Je veux qu'on comprenne. Est-ce que la table des négociations, elle n'est qu'en France et dans ce cas, on se dit que Bercy en effet peut-être a un peu les manettes? Ou est-ce que quand ils disent Coca a augmenté ses prix, c'est déloyal, si vous les achetez à Bruxelles, Coca, Bruno Le Maire aura beau s'agiter, ça n'aura aucun impact.
On les achète pas à Bruxelles, on les achète à Rungis. Donc, il faut se remettre autour de la table, il faut absolument
Coca, vous l'achetez à Rungis, vous nous le dites ce matin. Coca, Mars, vous les achetez à Rungis.
Il y a certains, il y en a 40 qu'on achète, qu'on essaye d'acheter ensemble au niveau européen.
Quand vous dites ensemble, c'est avec qui ? Avec Carrefour ?
Avec un partenaire. Nous, on a un partenaire allemand aux achats qui s'appelle Edeka, qui est le numéro un allemand de la grande distribution allemande. Et là, ces grandes marques-là, on les achète ensemble avec eux. Mais c'est 40 entreprises, toutes
ouais,
les autres.
Pas n'importe quelles entreprises. C'est en effet Coca et Mars.
Mais c'est des très grandes.
C'est celles qui tirent le plus les prix vers le haut.
C'est celle qui tire actuellement les prix vers le haut et qui actuellement refuse de revenir autour la table des
voilà. Dominique Schelcher, vous êtes en train de nous dire que les 40 méga entreprises internationales qui tirent les prix considérablement vers le haut et dont depuis des semaines Bercy nous dit ils veulent pas revenir à la négociation, de toute façon ils vont pas revenir à la table des négociations puisqu'ils ne viennent pas négocier avec vous en France.
Dans l'appel du gouvernement qui a écrit à ces entreprises, puis nous avons écrit à ces entreprises, chez Système U nous avons écrit à 300 entreprises en préservant les PME qui ne sont pas en jeu dans cette discussion, c'est pas le sujet, et en préservant certains acteurs particuliers, par exemple dans le domaine du lait. Le lait c'est extrêmement sensible actuellement, il varie beaucoup et il faut défendre le revenu des producteurs laitiers. Par exemple, ces gens-là ne sont pas en jeu non plus. Donc, c'est 300 entreprises. Donc, il y en a peut-être 40 qu'on discute au niveau européen pour acheter ensemble, mais il y en a 250 autres qui doivent revenir autour de la table des discussions. Et c'est ça qu'on appelle.
Ils vous ont toujours pas répondu.
Il n'y a aucun mouvement. Au moment où on se parle ce matin, malgré la lettre des ministres, malgré notre invitation, malgré tous les débats qui ont lieu ces derniers jours, il n'y a pas un mouvement dans le sens d'une réouverture de négociations. Et le paradoxe, c'est totalement incroyable. L'année dernière, on a eu le même appel dès le 1er mars pour réouvrir les négociations. Mais on a eu des centaines de demandes de réouverture de négociations. Pourquoi ? Parce que les matières premières augmentaient.
Ce que vous voulez dire, c'est que quand les prix montaient, ils vous ont demandé de rouvrir les négociations.
Absolument.
Vous avez tous dit oui. Quand les prix baissent, ils sont aux abonnés absents.
Il y a une espèce d'ascenseur pour mettre les prix à la hausse quand les prix montent. Et là, tout le monde essaye de prendre l'escalier. Là, c'est un peu l'escalier de secours. Personne veut rentrer dans...
Est-ce qu'il y a quand même quelques agro-industriels qui jouent le jeu ? Je sais que Lidl, par exemple, dit que Fleury Michon a accepté de rouvrir les négociations pour faire baisser les prix.
Ça, c'est une discussion propre à ce concurrent. Je vous le redis, j'ai vérifié encore un quart d'heure ce matin avant de venir vous voir. Chez Système U, pour l'instant, on n'a aucune discussion de réouverture de négociations. On a même plutôt quelques lettres de non définitif à toute réouverture.
Qui vous dit non, par exemple ?
J'ai pas de nom précis, mais je crois que j'en ai 7 ou 8 qui nous ont écrit en disant, en réponse à notre lettre, nous on n'ouvrira pas de discussion cette année, c'est pas le sujet. Or, je vous le redis, un certain nombre de matières premières sont vraiment à la baisse. Toutes les graines et les oléagineux et le maïs sont à la baisse. Le beurre est à la baisse. Les emballages sont à la baisse. Le plastique, l'aluminium, mais aussi le transport et le carburant, tout ça.
Donc il y a des raisons.
Il y a des raisons raisonnables et objectives. Absolument.
Une baisse de prix. Absolument. Vous parliez à l'instant des oléagineux. Arnaud Rousseau, qui est donc le nouveau patron de la FNSEA, qui a pris la succession de Christiane Lambert, il est aussi le président du groupe Avril. Avril, c'est les huiles Le Sieur, c'est les huiles Puget, c'est les huiles Isio 4. Il a annoncé hier que Le Sieur, par exemple, avait baissé ses prix au 1er mars de 18 à 20%. Ça veut dire au début de la chaîne, au moment où Le Sieur vous vend à vous, les distributeurs, ces huiles. Il dit on devrait voir, normalement, depuis la mi-avril, une baisse de cet ordre-là. Or, on voit une baisse dans les rayons de 4%. Donc lui, il dit je vous la vends 18 à 20% moins cher qu'il y a un an. Mais dans vos rayons, elle n'est qu'à 4%. Donc là, pour le coup, c'est vous qui ne répercutez pas la baisse.
Je confirme la baisse de 20% aux alentours. On ne donne pas de chiffre précis parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais je confirme cette proportion-là. La baisse de prix arrive. Là, elle arrive au mois de mai. Elle est en cours d'être passée dans les magasins. Parce qu'entre le temps de la négociation et la mise en œuvre, il y a un peu de temps, je veux dire, administratif, d'une part, et d'autre part, il y a parfois des stocks.
Que vous avez acheté 20%
plus cher. Quand vous avez acheté un peu de stock un peu plus cher, vous l'écoulez, et après, dès que vous pouvez, vous basculez. Mais c'est relativement rapide.
Mais ça veut dire, Dominique Schelcher, que vous nous dites qu'entre donc mars, où ils vous l'ont vendu 18 à 20% moins cher, et maintenant, pour l'instant, elle reste élevé, là, dans les jours qui viennent, dans les rayons de Super U,
le mouvement est d'ores et déjà enclenché.
L'huile Le Sieur, l'huile Isio 4, l'huile Puget va être jusqu'à 20% moins cher.
On va répercuter les négociations qu'on a faites. Il y a toujours un petit peu de temps de latence. Souvenez-vous, sur ce même plateau, il y a quelque temps, j'expliquais que le résultat des négociations, on les répercute entre le 1er mars et fin juin. Donc voilà, on est pile poil dans ce qu'on a dit depuis toujours.
Ce que j'ai envie encore de comprendre, c'est que depuis des semaines, des mois maintenant, vous, les distributeurs et Bercy disent il faut revenir sur cette idée qu'on ne négocie qu'une fois par an, oui, parce que ça bloque, ça ne permet pas cette souplesse des prix. Quand on regarde les pays étrangers, la France, si j'ai bien compris, est le seul pays au monde qui ait ce système de négociation une fois l'an. Pour autant, nos voisins n'ont pas des prix qui auraient beaucoup plus baissé que nous. Est-ce que ce n'est pas un peu un leurre de s'exciter sur cette histoire ?
Pas du tout. C'est une proposition que je formule depuis de longs mois. pour un, tenir compte de l'évolution des matières premières, c'est quand même une réalité. Et la preuve, c'est par exemple la discussion qu'on a toute l'année avec les fabricants de produits de marque distributeur, la marque U. Là, ça monte et ça baisse plus rapidement. Et ensuite, les mêmes qui se plaignent pendant les 3 mois auprès de la presse. Oh là là, c'est terrible d'aller voir les distributeurs. Ils nous mettent de la pression, etc. Le but, c'est aussi de détendre cette période, d'avoir des relations plus sereines, plus équilibrées tout au long de l'année et pour être plus serein. Et les mêmes donc qui se plaignent pendant les 3 mois sont les mêmes qui refusent aujourd'hui de changer les règles du jeu, alors qu'on est, vous l'avez dit vous-même, les seuls en Europe à pratiquer de la sorte. C'est un système dépassé.
On va revenir sur ce trimestre anti-inflation, sur le fameux panier, et puis essayer de comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Mais encore sur les prix, les fruits et légumes, il y a des signaux très contradictoires parce qu'on nous dit que les produits français résistent à l'inflation, mais qu'en même temps, il y a de la sécheresse, notamment en Espagne, qui pourrait avoir un impact sur les prix. On en est où sur les produits frais ?
J'ai fait le point avant de venir vous voir avec mes équipes de fruits et légumes qui sont plutôt confiants pour la saison. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des zones avec de la sécheresse, mais il y a d'autres zones, et notamment en France, où il y a suffisamment de pluie et où la production est bonne. Donc, la production des uns va compenser peut-être le déficit de production des autres, et l'impact sur le prix va rester raisonnable cette année. Et je n'ai pas d'alerte non plus de pénurie massive à l'heure où on se parle. Donc, plutôt rassurant sur les fruits et légumes.
Donc, on peut être rassurant sur les fruits et légumes. La volaille est un des points qui augmente le plus. Est-ce qu'on peut espérer que ça se stabilise, voire que ça baisse ?
La volaille a été fortement impactée par l'épisode de grippe aviaire. D'ailleurs, il y a encore des phénomènes actuellement, et c'est la raison principale de la difficulté. Quand vous êtes obligé d'abattre notamment des canards dans le sud-ouest, il va en manquer, et donc là, ce sera plus difficile. Il y a une petite amélioration sur les œufs. Les œufs étaient montés très haut l'année dernière en termes de prix. Ils commencent sensiblement à rebaisser. Ça, c'est aussi
une
bonne nouvelle.
À rebaisser ou simplement à stagner ?
Après une stagnation, nous, on a maintenant commencé à baisser un certain nombre de prix, notamment sur la marque U, sur les œufs, qui étaient montés très haut, encore une fois, qui rebaissent. Donc, vous voyez, il commence à y avoir des bonnes nouvelles.
Emmanuel Macron, hier soir, qui disait « L'objectif, c'est de maîtriser l'inflation d'ici l'automne ». Vous avez le même horizon ?
J'ai le même horizon si on se remet autour de la table. Si on ne se remet pas autour de la table, on n'arrivera pas à sortir des contrats qu'on a signés actuellement. Il faut se remettre autour de la table pour impacter un certain nombre de prix. Donc je dis oui, si on arrive à se mettre autour de la table, et on compte sur les pouvoirs publics, et je crois qu'ils sont très déterminés pour pousser à la réouverture.
Ils sont déterminés, mais est-ce qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à l'obligation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à dire pour l'instant, c'est je demande, j'incite, j'espère. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à j'oblige ?
Si ça ne bouge pas, à un moment, il faudra mettre un peu plus de pression. Et dans les paroles de Bruno Le Maire ou d'Olivia Grégoire la semaine dernière, on a senti beaucoup de détermination.
Encore une fois, je rappelle qu'ils reçoivent ce matin, là, au moment mercredi. Oui, on est mardi, pardon.
On est mardi, ce sera demain.
Pardon, je ne sais plus quel jour on est. Demain matin, 8h45.
Absolument.
Donc, à 7h06 demain, ils seront tous ensemble. Donc, les industriels de l'agroalimentaire et les deux ministres que vous venez de citer.
Et exactement. Et les mêmes qui seront autour de la table demain, il y a un an exactement, me passaient tous les jours des coups de fil, Dominique Schellcher, pour faire bouger
les... Vous trouvez ça injuste, en fait. Vous dites, on sait... Est-ce que vous n'avez pas
réussi à
vous dire, on s'est fait un peu avoir quand même ? Nous, on a été sympas, on a été bonne poire, on a rouvert les négos l'année dernière, ils n'ont pas fait.
L'année dernière, on a absolument joué le jeu. Je pense qu'on était constructifs, volontaristes. Certains prix ont augmenté plusieurs fois, et c'est la raison de l'inflation actuelle. Et cette année, c'est silence radio. Et je suis très frappé, si vous voulez, aujourd'hui, par l'unanimité de cette fermeture. Et j'espère qu'à la sortie de la réunion de demain, il y aura des signes d'ouverture d'un certain nombre
d'industries. Est-ce que vous iriez jusqu'à vous dire qu'ils se sont un petit peu acoquinés ?
Je suis frappé par ce silence unanime et ce refus global. Alors qu'encore une fois, il y a des raisons objectives.
Est-ce que vous vous dites, en fait, mars, tout ça, ils se parlent et ils se disent, on n'y va pas ?
Ce que j'observe pour circuler au niveau européen...
Vous n'osez pas aller jusque-là parce que j'imagine qu'il y a des raisons légales. C'est-à-dire que s'ils se sont mis d'accord, c'est carrément interdit par la loi. Ce serait une forme de trust.
Ah bah ça, c'est totalement interdit. Ce que j'observe...
Mais vous en doutez quand même.
Ce que j'observe, c'est au niveau européen, quand je circule, que je discute avec mes confrères européens, que je vois régulièrement. Le phénomène est le même partout en Europe, et j'ai même des échos aux États-Unis. Donc c'est quand même très surprenant. Et le sujet derrière tout ça, c'est quoi ? C'est de penser au consommateur. Le consommateur, il a besoin d'aide maintenant. Moi, je suis sur le terrain toutes les semaines et je les entends, les clients. Et on ne peut pas les laisser dans les difficultés qu'ont certains. 43% des Français se restreignent sur l'alimentaire, c'est pas acceptable.
Mais quand vous entendez hier que le groupe Mars se réjouit d'investir 160 millions d'euros en France, ce que vous vous dites pas, et j'ai posé la question très clairement à Bruno Le Maire hier, qui dit non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, évidemment, d'un côté il y a le Bruno Le Maire qui dit merci pour les 160 millions, et de l'autre il devrait y avoir le Bruno Le Maire qui leur tape sur les doigts en leur disant vous avez augmenté de 49% ce qu'on appelle la pet food, c'est-à-dire par exemple l'alimentaire pour les chiens et les chats.
C'est une question d'équilibre, Apolline de Malherbe. Ce sont des entreprises extrêmement puissantes qui gagnent beaucoup d'argent.
C'est pas eux qui sont les plus puissants. Est-ce que c'est pas eux qui guident? Est-ce que c'est Bercy vraiment qui décide?
Elles sont extrêmement puissantes. Elles doivent trouver l'équilibre entre le juste investissement en France, et tant mieux, et je me réjouis, et bravo pour tout ce qui est fait, tous ces investissements, et en même temps, à l'autre bout de la chaîne, le soutien, des consommateurs. On ne peut pas que tout faire pour ses actionnaires. Il faut penser aux gens à l'autre bout de la chaîne qui sont en vraie difficulté.
Le trimestre anti-inflation. Alors du côté de Bercy, là encore, on se réjouit, on dit ça marche super bien, moins 13% sur le panier, alors que l'UFC Que Choisir dit ben, pas du tout. On est au mieux à moins 0,5, moins 1, voire même dans vos magasins, par exemple, les magasins U, une augmentation de 1%.
Alors écoutez, l'UFC Que Choisir cherche une mauvaise polémique avec cette histoire, a cherché hier matin, lundi matin, à faire un buzz qui a été repris par tous les médias. Qu'en est-il? Moi, je regarde le communiqué de la DGCCRF, le service des fraudes, qui contrôle le panier anti-inflation. Et il dit quoi? Nous, on a mis tous les paniers au début de l'opération, ou avant le début de l'opération, ils coûtaient tant. On a regardé les prix aujourd'hui, ça a baissé de 13%. C'était le but de ces paniers. Et l'UFC Que Choisir fait quoi? A regardé une période pendant le mois de mars. Mais je vais être très précis avec vous. Sur le panier U, 150 produits. On a été les premiers à faire cette opération. 70 produits n'ont pas bougé d'un centime depuis le début de l'opération. Entre 10 et 20 produits ont baissé jusqu'à 9% depuis le début, parce qu'on répercute les baisses. Et les autres produits, une soixantaine de produits, ont légèrement augmenté, ce qui conduit au 1% que vous venez de citer. Mais pourquoi? Parce qu'on joue le jeu avec le monde agricole. Le lait, par exemple, qu'est-ce qui a augmenté? Les produits laitiers. Mais parce que ces produits-là font l'objet d'une indexation. Quand le lait augmente, quand les yaourts qu'on fabrique à la marque U, il y a une clause dans le contrat qui dit, quand le lait augmente, on paye un peu mieux les agriculteurs. C'est ça qu'on répercute. Donc on est juste et transparent.
S'il n'y avait pas eu le panier anti-inflation, ils auraient augmenté de combien vos produits?
Ils auraient absolument, c'est ça la conclusion, ils auraient augmenté beaucoup plus de l'ordre de l'inflation actuelle, peut-être.
Mais qu'il n'y ait pas non plus une inflation, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé de ce mars rouge, d'ailleurs vous aviez vous-même alerté en disant attention, ce sera plutôt un trimestre rouge, mais pas, il ne va pas y avoir un énorme pic sur un mois. En réalité, sur le mois de mars, globalement, il y a eu une augmentation de 2,5. Donc c'est cette augmentation-là qu'on a évitée.
Voilà, c'est cette augmentation-là qu'on a évité, et y a un incontestable impact. Et d'ailleurs, les instituts d'études qui mesurent ça tous les mois le disent. Si l'inflation alimentaire, et c'est aussi la bonne nouvelle, est ralentie depuis 2-3 mois, c'est parce qu'il y a un panier anti-inflation.
Donc ça sert à quelque chose.
Et ça sert à quelque chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Système U, dès la semaine dernière, j'ai annoncé la prolongation de ce panier jusqu'à la fin de l'année.
Jusqu'à la fin de l'année.
Mais bien sûr, parce qu'on réglera pas le problème. On espère la réouverture des négociations, mais qui ne régleront pas tout. Et donc, nous, on continue notre opération pour accompagner les Français.
Est-ce que vous mettrez les fournitures scolaires dedans?
Alors, le problème des fournitures scolaires, c'est qu'elles sont déjà commandées. Donc, on ne pourra pas rajouter des choses, mais il y a énormément d'actions commerciales prévues. La bonne nouvelle, j'ai vérifié avant de venir aussi, le panier de rentrée des classes va peu bouger par rapport à l'année dernière. Il y aura peut-être un peu d'inflation, mais rien à voir avec l'inflation alimentaire. Il y aura des opérations, les gens pourront acheter des fournitures scolaires à bon prix cette année.
Je voudrais comprendre encore une autre chose. Vous m'avez dit au début de l'interview... Comment ça marchait, en gros? Comment est-ce que vous vous retrouviez autour de la table? Avec qui? Quand? Et surtout où? Vous me dites, parfois on se met en commun avec d'autres pays, et notamment avec votre confrère allemand. Comment ils font, les Allemands? Puisque eux, ils n'ont pas cette contrainte d'un an. Est-ce que, quand vous comparez avec ce qui est parfaitement comparable, c'est-à-dire un de vos confrères qui fait le même job en Allemagne et qui parfois se retrouve à la même table que vous, comment est-ce qu'il y a des solutions que eux ont mises en place et qui pourraient nous être utiles?
Écoutez, on se voit relativement régulièrement puisqu'on est partenaire, on en parle. Le principe de la discussion est le même, sauf qu'il est plus fréquent et plus détendu. C'est quand même ce que j'observe.
Mais qu'il soit plus fréquent et plus détendu, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que ça a un impact dans les rayons? C'est-à-dire, est-ce que quand on va dans un rayon de Super U côté France, en plus vous êtes en Alsace, ou quand on va dans le rayon de votre confrère côté Allemagne, on n'a pas les mêmes prix?
On n'a pas les mêmes prix. Ce que j'observe, c'est que, si vous voulez, ça a augmenté peut-être plus vite à l'étranger, notamment en Allemagne d'ailleurs.
C'est exactement ça. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on dit que le système français marche pas si bien. Quand on compare, on n'est pas si mauvais, quoi.
Non, mais parce que ça a augmenté plus vite, mais aujourd'hui, ça baisse aussi plus vite. Ah. C'est ça la différence. Et c'est ça, si vous voulez...
C'était peut-être monté plus haut, mais ça va redescendre plus vite.
Ça redescend plus vite, et c'est le cas dans tous les pays européens. C'est vrai que j'observe aussi un peu la Pologne. On a un partenaire aussi qui est là-bas. On regarde ce qui se passe, ça baisse aussi plus vite là-bas. Donc oui, ça monte plus vite, mais parce qu'on tient compte des matières premières qui montent. Et après, quand elles baissent, eh ben, on en tient compte aussi. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
C'est cette flexibilité et cette souplesse que vous espérez tous finalement pour la France. Dominique Schellcher, merci d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Système U. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.